Au revoir à toutes et à tous.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 16 août 2022. Avec vous, Eric Manelakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Kenya, Raila Odinga qualifie de parodie le résultat de la présidentielle, donnant William Ruto vainqueur. L'OMS, trois dirigeants africains et deux européens appellent à produire plus de vaccins en Afrique pour faire face aux pandémies. Les procureurs américains s'opposent à la publication des raisons de la perquisition chez l'ancien président Donald Trump. L'issue des négociations sur le dossier nucléaire iranien semble proche. L'Union européenne examine la réponse de Téhéran. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'opposant kényan Raila Odinga rejette les résultats provisoires de la présidentielle, le donnant perdant face au vice-président William Ruto. Il annonce un recours au point avec Abdourahmane Dia.
Face à la presse au lendemain de l'annonce des résultats par la commission électorale, le vétéran de la politique kényane parle de parodie et un mépris évident de la constitution. « Nous poursuivrons toutes les options légales et constitutionnelles à notre disposition. Nous le ferons au regard des nombreuses failles dans les élections », a-t-il déclaré lors de sa première allocution depuis l'annonce de sa défaite. Pour Raila Odinga, 77 ans, la démocratie kényane, qu'il qualifie de naissante, a essuyé un revers majeur. Il se présentait pour la cinquième fois et avait bénéficié du soutien de son ancien rival, le président sortant Uhuru Kenyatta. Pour lui, le Kenya fait face à une crise politique et légale profonde, dénonçant le rôle joué, selon lui, par la commission électorale indépendante. Hier, quatre membres de cette commission, dont la vice-présidente, ont claqué la porte avant l'annonce des résultats, dénonçant une opacité du processus. Raila Odinga n'a pas manqué d'évoquer les souvenirs horribles des conséquences des élections de 2007. Cette année-là, Raila Odinga avait contesté les résultats. La crise post-électorale qui avait suivi avait provoqué des affrontements interethniques et la mort de plus de 1100 personnes. En 2017, il avait aussi contesté les résultats devant la Cour suprême. La justice avait alors invalidé le scrutin qui avait été réorganisé.
Toujours au Kenya, les femmes ont réalisé une percée historique lors des élections du 9 août. Elles ont décroché notamment 26 sièges de députés, synonymes d'un pas supplémentaire vers la parité. Dans la ville de Nakuru, dans la vallée du Rift, les femmes ont décroché 8 postes, dont un de gouverneur et de sénatrice. Une nouvelle attaque de sites d'exploitation d'or attribués à des miliciens a fait 16 morts mardi matin en Ituri, dans le nord-est de la RDC, ont annoncé des sources locales. Une précédente attaque de sites d'exploitation artisanale d'or avait fait 4 morts il y a moins d'une semaine. Dans le même territoire de Djougou, où 2 ressortissants chinois avaient également été pris en otage. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées mardi à Marikana en Afrique du Sud, 10 ans jour pour jour après le massacre de 34 mineurs grévistes dans la pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid. Une enquête officielle a mis en cause les tactiques policières déployées le jour du massacre sur le site situé à plus d'une heure de route au nord-ouest de Johannesburg. Une poignée de policiers a comparu, mais aucun n'a été condamné à ce jour. De nombreuses demandes d'indemnisation déposées par les familles sont encore en suspens, selon le parquet. Une commission d'enquête a innocenté les hauts responsables gouvernementaux. 5 chefs d'État et de gouvernement d'Europe et d'Afrique et l'OMS plaident pour un partage des technologies et un soutien à l'innovation pour produire plus de vaccins localement afin de faire face aux pandémies. Les détails avec Nani Tetalani.
Il ne s'agit pas de savoir si une nouvelle pandémie va se déclarer, mais quand. Il est grand temps d'intensifier la collaboration, de favoriser la production locale et de renforcer la confiance dans les produits fabriqués localement afin de mieux se préparer à la prochaine crise, écrivent-ils dans une tribune parue dans un quotidien français. Ils appellent ainsi au renforcement de la formation des personnels et la réglementation, ainsi qu'à plus de financement dans la préparation aux pandémies, d'autant plus que la technologie de l'ARN peut être aussi adaptée pour lutter contre d'autres maladies. Parmi les signataires se trouve le directeur général de l'OMS, le chancelier allemand, Les présidents de France, d'Afrique du Sud, du Sénégal et du Rwanda, où a été inaugurée en juin la première usine de vaccins à ARN messager d'Afrique, avec l'objectif de fabriquer d'ici 2024 des traitements contre le COVID-19 et d'autres maladies. L'Afrique du Sud a ouvert une usine de vaccins anti-COVID en janvier. Le Sénégal veut également devenir un hub régional pour la fabrication de vaccins. Moins de 20% de personnes ont reçu 2 doses de vaccins anti-COVID en Afrique.
Une messe a réuni mardi au Caire des proches de 6 enfants d'une même famille, dont des sœurs jumelles et leur frère mort dans l'incendie dimanche d'une église copte dans la capitale égyptienne. Cet incendie causé par un court-circuit a eu lieu lors d'une messe à l'église Abu Sifin, située dans une ruelle étroite d'Imbaba, quartier populaire densément peuplé de la rive gauche du Nil. D'après les autorités, 41 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministère américain de la Justice s'est opposé lundi à la publication d'un document judiciaire censé donner les raisons qui ont poussé les enquêteurs fédéraux à mener une perquisition inédite chez l'ancien président Donald Trump la semaine dernière. Rosine Munezer.
Plusieurs organisations, dont des médias, avaient demandé à un juge de publier un document judiciaire dans lequel les enquêteurs expliquent habituellement pourquoi la perquisition était nécessaire. Mais le ministère de la Justice a assuré lundi qu'une telle publication nuirait de manière irréparable à l'enquête pénale en cours. Selon les documents révélés vendredi, la justice soupçonne l'ancien président d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage qui encadre très strictement la détention de documents confidentiels. La liste des objets saisis mentionne de nombreux documents classés top secret. Donald Trump, pressenti pour se relancer dans la course à la Maison-Blanche en 2024, a assuré que ces documents avaient été déclassifiés lundi. En indiquant avoir vu ses passeports saisis lors de la perquisition, il s'est dit victime d'une attaque contre un opposant politique. Ses partisans dénoncent une chasse aux sorcières.
L'élue républicaine Liz Cheney, qui s'est lancée dans une bataille contre Donald Trump, fait face mardi à Harriette Hegman dans la course à l'investiture républicaine pour un siège à la Chambre des représentants d'Iowa, Wyoming, État solidement ancré à droite. Madame Hegman, qui est appuyée par l'ancien président Trump, est donnée largement victorieuse. L'Union européenne et les États-Unis ont dit mardi examiner la réponse de l'Iran au texte final proposé par Bruxelles pour relancer l'accord sur le nucléaire, une étape cruciale après des mois de difficiles négociations. Plus de détails avec Claire Brejbourg.
Le texte final proposé par l'Union européenne permet le retour des États-Unis dans l'accord et la levée des sanctions imposées à l'Iran, à condition que le pays respecte ses engagements et cesse de dépasser les limites prescrites sur l'enrichissement et les autres activités nucléaires. Selon l'agence officielle IRNA, l'Iran a transmis lundi soir ses dernières remarques en jugeant un accord possible si les États-Unis réagissent avec réalisme et flexibilité. Mais hier, le département d'État s'est refusé à dire que Washington était prêt à approuver le plan de Bruxelles, s'abstenant de se prononcer sur la possibilité d'une levée des sanctions américaines en cas de feu vert iranien au compromis européen. Washington a renvoyé la balle à Téhéran, affirmant que l'Iran devait abandonner ses demandes inacceptables qui vont bien au-delà de l'accord.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra en Ukraine jeudi où il va participer à une rencontre avec les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan. C'est à l'invitation de M. Zelensky, le porte-parole de l'ONU. Stefan Dujarric précise que M. Guterres se rendra à Lviv jeudi et à Odessa vendredi, puis en Turquie. Le président français Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui au retrait des forces russes de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine. Il a souligné les risques que leur présence fait peser sur la sécurité du site. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue Volodymyr Zelensky, il a fait part de sa préoccupation. La centrale, la plus grande d'Europe, a été prise début mars par les troupes russes au début de leur invasion de l'Ukraine, lancée le 24 février. Un navire humanitaire de l'ONU transportant des céréales vers l'Afrique a quitté l'Ukraine mardi. Selon le ministère ukrainien de l'infrastructure, le navire a quitté le port de Pitvenny dans le sud de l'Ukraine avec à son bord quelques 23 000 tonnes de céréales pour l'Éthiopie. L'explosion des munitions qui s'est produite mardi dans une base militaire russe en Crimée était due à un acte de sabotage, a indiqué l'armée russe dans un communiqué qui n'en désigne pas les responsables. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, ce soir, c'est avec Nanit Sylvani Talani.
Les producteurs de cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire se plaignent de ne pas avoir les moyens d'acheter les engrais et autres produits nécessaires pour augmenter le rendement de leurs plantations. Un sac de 50 kg d'engrais coûte jusqu'à 38 000 francs CFA, soit plus du double du prix en 2020 et 2021. Certains agriculteurs n'ont pas pu fertiliser leurs champs une seule fois, ce qui risque de réduire le volume de la production de cacao cette année. Le Burundi va abriter la deuxième conférence régionale du tourisme en septembre. Le gouvernement est exhorté à affecter des ressources constantes à l'aménagement de ses plus de 120 sites touristiques. Les attraits et potentiels du pays englobent sa faune, le musée vivant de Bujumbura, le sanctuaire du tambour de Gishora, les lacs Tanganyika et du Nord, les chutes de Karera, le site du traité de Kiganda, les enclos royaux de Muramvya, les tombeaux des rois et des reines-mères, les eaux thermales de Mugara, les aires protégées dont les parcs de la Rusizi, de la Ruvubu et de la Kibira. Terminons par la Chine qui a réduit ses avoirs en bons du trésor américain pour un septième mois consécutif en juin, selon les données du département du trésor américain publiées lundi. Ils sont tombés à 967,8 milliards de dollars, soit le montant le plus bas depuis 2010.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football. Mohamed Salah et Naby Keita calent encore avec Liverpool contre Crystal Palace.
Oui, réduit à 10 après l'expulsion de sa recrue star Darwin Núñez, Liverpool a concédé un deuxième match nul consécutif hier à Anfield contre Crystal Palace, un but partout. C'était en clôture de la deuxième journée de Premier League. L'attaquant ivoirien Wilfried Zaha a marqué pour Palace. Ce nul après le 2-2 inaugural contre Fulham la semaine dernière n'arrange pas les Reds qui se retrouvent déjà à 4 points d'Arsenal et surtout du champion en titre Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez, parti sur un rythme d'enfer. Deux matchs, deux victoires, six buts inscrits et aucun encaissé.
En Italie, enquête après des cris racistes contre Victor Osimhen à Vérone.
La Ligue italienne de football annonce l'ouverture d'une enquête après des insultes racistes ayant visé l'attaquant nigérien de Naples hier lors de la première journée de Serie A sur le terrain de l'Hellas Vérone battu 5-2. Le club véronais a écopé d'une amende de 12 000 euros en raison des chants insultants de nature territoriale entonnés de façon répétée par ses supporters à l'encontre des tifosi napolitains. Le match a été marqué par des insultes racistes visant Victor Osimhen, auteur du deuxième des cinq buts du Napoli la saison dernière pour des cœurs racistes visant déjà Osimhen et Kalidou Koulibaly, parti à Chelsea. Vérone avait été condamné à disputer une rencontre avec un virage fermé.
Enfin, Ryan Giggs assure n'avoir jamais agressé de femme.
C'est ce qu'affirme l'ancienne star de Manchester United qui dit n'avoir pas commis de violence contre des femmes. Lors de son procès pour violence conjugale, Ryan Giggs, qui entraînait jusqu'à récemment l'équipe nationale du pays de Galles, est accusé par son ancienne compagne Kate Greville. Celle-ci assure qu'en novembre 2020, il lui a donné un coup de tête et a asséné un coup de coude dans la mâchoire de sa sœur qui était intervenue. Ryan Giggs a plaidé non coupable. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Comme joueur, Giggs a remporté 13 titres de Premier League et 2 Ligues des Champions avec les Red Devils. Il a été nommé en janvier 2018 sélectionneur de l'équipe galloise qui l'a mené en 8e de finale du dernier Euro l'an passé.
Et c'est la fin pour les sports. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Maniakiza, place au dossier du jour. Au Kenya, au lendemain de l'annonce de la victoire du vice-président sortant William Ruto à la présidentielle du 9 août, son rival Raila Odinga a annoncé qu'il conteste les résultats proclamés par le président de la commission électorale. L'ancien premier ministre promet d'user de toutes les options légales à sa disposition pour obtenir gain de cause. Pour analyser le scrutin et les suites éventuelles du processus, Mouamadou Onfa a joint Danny Komla Aida, directeur senior du National Democratic Institute, NDI, basé en RDC.
NDI et IRI, nos collègues de IRI, nous avons conduit une mission conjointe d'observation dans le pays. Les deux organisations ont fait une déclaration aujourd'hui, appelant la population au calme suivant la proclamation des élections, parce que c'est un processus qui comporte beaucoup d'enjeux. Alors, quand on connaît le passé de violence électorale ou post-électorale que ce pays a connu, donc c'est un appel au calme que les deux organisations, NDI et IRI, viennent de lancer à nos partenaires kenyans.
Quatre membres de la commission électorale, dont la vice-présidente Juliana Chirira, ont contesté le résultat annoncé hier par la commission électorale. Est-ce que, selon vous, c'est de nature à remettre en cause le processus?
Mais tout à fait. Cela nous rappelle ce qui s'est passé encore il y a 5 ans, quand la Cour suprême a dû intervenir pour invalider l'élection présidentielle, ce qui a conduit à une réorganisation de ces élections. Je pense qu'il y a beaucoup de contestations par le parti de Raila Odinga, qui a parlé de manipulation des résultats, de bourrage d'urne ou d'autres infractions encore. Hier, il y a eu un porte-parole de Raila Odinga qui a dit que la proclamation était un crime. Donc, ça veut dire que la contestation devant la Cour suprême va de soi, ça va se produire. Le candidat Odinga ne reconnaît pas les résultats qui sont proclamés.
Oui, mais en Afrique, les contestations des résultats des élections, c'est quasiment un phénomène courant. Est-ce que, de votre point de vue, il y a eu des éléments, des indicateurs qui prouvent qu'il y aurait eu des fraudes ou des manipulations des résultats?
Je crois que dans le cas d'espèce, on va se référer plutôt aux arguments que les deux parties vont brandir. Quand on voit la coalition One Kenya de Raila Odinga qui dit que la centralisation des résultats a conduit un certain nombre de cas d'infractions, ça veut dire que s'ils arrivent à défendre cela devant la Cour suprême, cela pourrait être pris en compte. À la différence de beaucoup de pays africains, il faut avouer que sur le plan juridictionnel, le Kenya a une longueur d'avance parce que la haute juridiction kenyane a déjà annulé une élection présidentielle, ce qui ne s'est jamais produit dans aucun autre pays en Afrique. Donc, il faut vraiment suivre de près la suite des événements.
Vous rappelez justement qu'en 2017, l'élection avait déjà été annulée. Est-ce qu'il y a une différence avec cette élection-là, selon vous?
Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Vous vous rappelez la joute entre Odinga et Kibaki en 2007, ce qui a conduit à beaucoup de violences. Pour le moment, c'est assez contenu. Il y a une tension perspective dans l'ensemble du pays. Mais la différence cette fois-ci, c'est que vous voyez que les reports de voix n'ont pas été automatiques. Et beaucoup de gens parlent de régionalisme ou d'ethnicisme en parlant du Kenya. Mais les deux ethnies dont proviennent les deux candidats, c'est 13%, 14%. Donc, il n'y a pas de domination nette des deux régions. Donc, ça veut dire que beaucoup de facteurs ont joué dans cette élection-là et on va suivre de près comment les appels que les deux candidats vont donner dans les jours à venir pourront jouer.
Danny Komla Aida, directeur senior du National Democratic Institute, NDI, basé en RDC.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la victoire de William Ruto à la présidentielle kenyane face au vétéran de la politique Raila Odinga. Le vice-président, âgé de 55 ans, n'a pas obtenu le soutien de son patron, le président Uhuru Kenyatta, qui a préféré jeter son dévolu sur son ancien rival. En attendant la confirmation ou non de sa victoire par la justice, Ruto a promis de travailler avec tous les leaders politiques. Les appels au calme se multiplient dans ce pays qui a déjà vécu des crises post-électorales sanglantes. Pour tirer les enseignements de ce scrutin et son importance pour la région, rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.
La France a annoncé avoir achevé lundi le retrait de ses troupes du Mali avec le départ du pays des derniers soldats français de Barkhane. Une opération militaire visant à lutter dans le Sahel contre les mouvements islamistes. Pour analyser les défis et perspectives de son départ après 9 ans de présence au Mali, Jean-Roger Bion a joint à Bamako le journaliste et politologue Ibrahim Harane Diallo.
Le départ total de cette force-là, face à ce problème d'insécurité et multiforme auquel le Mali fait face, sinon le Sahel fait face, et que ce départ va toujours laisser un vide.
Alors, donc, vous reconnaissez que les responsabilités de l'armée malienne vont s'accroître. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2012-2013, quand le Mali avait fait appel à Barkhane à l'époque?
Et c'est vrai qu'à sous le régime de l'ancien président du feu Ibrahim Boubacar Keïta, l'armée malienne avait quand même des difficultés sérieuses, des difficultés structurelles en matière de lutte contre l'insécurité. Mais aujourd'hui, avec cette transition, avec ce régime pouvoir, ce régime militaire au pouvoir, il est quand même assez important de reconnaître qu'il y a eu un changement, et notamment avec la coopération russe. Figurez-vous aujourd'hui qu'il y a quand même un certain nombre de moyens militaires à la disposition de l'armée, des aéronefs, des avions.
Alors justement, on reconnaît l'importance du partenaire russe du Mali. Est-ce que en préférant la Russie à la France, n'est-ce pas déshabiller Paul pour habiller Pierre?
Bon, je pense qu'il est très tôt de parler comme ça. Je pense qu'on doit quand même aussi laisser le minimum de temps à cette nouvelle collaboration avec la Russie, voir ce que ça va donner, peut-être dans une période de 5 ans, 10 ans, comparablement à la période que l'armée française a fait au Mali, parce que depuis 2012, les forces françaises sont au Mali, donc 2012-2020, ça fait 10 ans. Donc, ce serait déséquilibré, alors de porter un jugement ou de faire une évaluation, alors de l'apport de la coopération russe en ce moment. Donc, je pense qu'il faut quand même donner un certain temps, il faut laisser une certaine durée à cette collaboration pour voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce départ des forces Barkhane vont laisser un vide, un grand vide, non seulement au Mali, au nord, dans le nord, mais aussi dans l'ensemble des pays du Sahel. Hein.
D'aucuns prédisent une multiplication des violations des droits humains dans un climat délétère. Qu'en dites-vous?
Oui, pour moi, il est encore tôt, une fois de plus, pour porter un jugement sur cette nouvelle collaboration. Mais ce qui est sûr et certain, aujourd'hui, le respect du droit international humanitaire, le respect du droit dans la guerre est une exigence de la communauté internationale et une exigence même des autorités maliennes. Donc je suis persuadé que cette communauté internationale et ces pouvoirs maliens, alors ils ne vont pas laisser ces différentes forces alors commettre des exactions en violation effectivement de l'ensemble des droits qui régissent effectivement les conflits armés.
Ibrahim Harane Diallo, journaliste et politologue, spécialiste dans l'étude des conflits armés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Togo, le prix de la bouteille de gaz butane connaît une hausse de plus de 73%. C'est la consternation chez les utilisateurs qui ne comprennent pas cette importante hausse. Les associations des consommateurs dénoncent une augmentation inopportune et demandent au gouvernement de revoir sa copie. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
C'est avec une certaine surprise que Assitan a découvert les nouveaux prix alors qu'elle allait recharger sa bouteille de gaz butane de 12 kilos. Elle n'en revient toujours pas.
Il se passe que je n'avais pas remarqué le changement de prix. Je finis de charger ma bouteille et je remets 6500 francs. C'est là que le vendeur me regarde et me demande si je n'étais pas au courant du changement de prix. C'est lui qui m'informe que c'est désormais 11 300 francs. C'est carrément le double de ce que nous payons. C'est trop cher.
Les nouveaux prix proposés par les sociétés de commercialisation et entérinés par le gouvernement connaissent une hausse de 73%. Les bouteilles de 6 kilos sont passées de 3 120 francs CFA à 5 400 francs CFA et celles de 12 kilos se vendent désormais à 11 300 francs CFA contre 6 500 francs CFA auparavant. Dame Akou, commerçante à Lomé qui utilise plus d'une bouteille de gaz de 12 kilos dans le mois, avoue ne pas pouvoir continuer par utiliser le gaz butane.
Désolé, mais ça va devenir difficile pour moi de dépenser 22 600 francs par mois pour le gaz domestique. Nous achetons parfois jusqu'à 3 bouteilles par mois puisque nous sommes nombreux dans la maison. Donc si c'est comme ça, on va aller jusqu'à 30 000 francs. Je crois que je vais reprendre les vieilles habitudes avec le charbon de bois.
Les associations de défense des consommateurs sont vent debout et dénoncent cette hausse des prix du gaz domestique. Freddy Dounia est le porte-parole des associations des consommateurs.
En cette période de vie chère, il est regrettable de constater que le gouvernement cautionne la révision à la hausse d'un produit d'aussi grande consommation comme le gaz. Force est de constater qu'à ce jour, le prix du gaz butane au Togo devient le plus élevé dans la sous-région avec une tentative de libéralisation du secteur et de suppression de la subvention.
Emmanuel Sogadi, le président de la Ligue des consommateurs du Togo, estime que la hausse des prix de la bouteille de gaz domestique va à l'encontre de la politique de reboisement initiée depuis l'année dernière par le gouvernement.
Il y a les effets dévastateurs sur l'environnement. Le niveau de déforestation actuel que nous avons dans le pays est très inquiétant. Nos opérations caméras du 1er juin n'ont donné aucun résultat. Donc si on va mettre fin à la subvention du gaz, ça veut dire qu'on a produit la déforestation à outrance. Nous on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse faire entendre notre voix en demandant à l'autorité de rapporter la décision le plus vite que possible.
Le gouvernement togolais a l'ambition de renforcer son couvert végétal avec 1 milliard d'arbres plantés d'ici 2030. La propension des Togolais à recourir désormais au bois de chauffe ou au charbon de bois va certainement mettre en cause cette politique de reboisement. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Lancement aujourd'hui de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. En République démocratique du Congo, RDC, un communiqué conjoint du ministère de la Santé et l'UNICEF rappelle que 9 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition chronique et près de 2 millions d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë sévère. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Selon beaucoup de médecins et pédiatres, dès la naissance à 6 mois, l'enfant doit être exclusivement nourri de lait maternel. En plus d'être mère, Voldy Mapenzi, l'une des plus grandes célébrités de la musique de la province du Nord Kivu, est aussi nutritionniste. Elle s'est dit souvent surprise par la volonté de plusieurs femmes d'habituer leurs nourrissons au lait artificiel.
Bon, déjà, lait artificiel, oui, ça peut être permis à un moment, mais le lait maternel reste quand même l'aliment de base de l'enfant dans certains mois. Il y a ceux qui intègrent la bouillie, il y a d'autres parce qu'ils disent ils doivent aller vaquer à des occupations, mais il y a un temps toujours pour nourrir. Moi, je crois qu'il faudrait alterner. Le lait maternel reste quand même important dans tous les cas, parce que quand on donne vie, c'est un amour sans pareil, quoi.
L'eau et les autres aliments sont les principaux obstacles à l'initiative dénommée plus fort avec les laits maternels uniquement. En cours en RDC, des séances de sensibilisation doivent être multipliées dans des communautés, estime Dr Lisette Uchu, médecin nutritionniste.
Je sais qu'il y a baisse de la montée laiteuse. Cette baisse peut être due à la sous-alimentation. Pour pallier à ce problème, vous devez renforcer votre alimentation. Une autre chose, nous devons éviter beaucoup de stress. Parce que quand on est stressé, il y a aussi baisse de la production du lait maternel.
La pratique de donner de l'eau aux enfants de moins de 6 mois est très répandue dans le pays. 20% des nouveaux-nés reçoivent un aliment autre que le lait maternel, principalement de l'eau, dès leurs premiers mois, et 70% des enfants dès l'âge de 4 ans et 5 mois, ce qui contribue à la malnutrition et aux autres maladies. Zanem Neti Zaidi à Goma pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à l'équipe de production, Joselle Morissin, Lionel Runanelagahima a assuré également la mise en onde, la réalisation de cette édition. Merci à l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.